Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Le samedi et le dimanche, Côté Jardin. Votre émission jardinage en format XXL et en réécoute sur le net.
Et vous êtes dans Côté Jardin, donc il est 9h08 sur France Bleu Gascogne et sur France Bleu Béarn Bigorre. Jusqu'à 10h, je serai avec Aurélie Mazeris, notre spécialiste jardin, pour vous répondre, pour répondre à vos questions, pardon. Et je sais qu'on en a déjà, le numéro c'est 05 58 46 50 50. En plus, on arrive dans une période charnière pour les jardins, ça va être vraiment important. Donc restez bien avec nous dans quelques instants. D'ailleurs, est-ce que Aurélie m'entend bien? Bonjour Aurélie.
Bonjour Thibault et bonjour à tous nos auditeurs.
Bon, je sais qu'on a déjà des gens qui veulent vous poser des questions, Aurélie. Est-ce que vous êtes prête de votre côté?
Je les attends avec impatience.
Génial. On va passer donc toute une heure ensemble, comme chaque dimanche et comme chaque samedi, puisque les chroniques de Côté Jardin, c'est le week-end. On va d'ailleurs tout de suite pouvoir filer du côté de Montfort-en-Chalosse pour aller voir Paul, qui a un sujet autour des fourmis. Bonjour Paul.
Oui, bonjour.
Bonjour Paul. Alors vous, votre question à Aurélie?
Alors, ma question, elle est que j'ai des fourmis au fraisier. Ça me fait des petits monticules de terre, et puis il y a des fourmis au fraisier. Comment je pourrais les réduire ou les enlever ou...
Voilà. Oui. Alors bonjour Paul, j'entends tout à fait votre question. En soi, la fourmi n'est pas un parasite ou un nuisible forcément dans le jardin, si ce n'est qu'elle peut ramener, en fait, elles élèvent les pucerons, elles peuvent éventuellement ramener des pucerons. Donc ça peut poser problème, mais en soi, c'est pas forcément gênant d'avoir des fourmis si on voit pas d'apparition justement de nids de pucerons. Après, je sais pas si vos fraisiers ils sont sur une toile tissée, s'ils sont paillés, s'ils sont à même le sol et que vous avez l'habitude de désherber ou au moins entretenir autour du fraisier en binant par exemple, mais ça va être sur ces formes un peu mécaniques de binage qu'on peut gêner éventuellement la formation des petites fourmilières qu'il peut y avoir autour.
Oui, voilà, c'est ça, oui. Alors moi, je n'ai pas de... C'est pas sur le plastique. Je paille et j'arrache l'herbe comme ça, manuellement. Et voilà. C'est ça qui... Et j'ai des petits monticules de fourmis au pied qui montent dans le cœur du fraisier.
Ah, si c'est dans le cœur du fraisier, après, ça reste du coup un peu plus compliqué de venir gratter ou biner, parce que là, oui, j'entends que si c'est au cœur du plant, c'est un peu plus difficile. En soi, c'est la fourmi, elle vient juste, elle fait des galeries, elle va alléger la terre, elle a quand même des vertus pour le jardin en soi. C'est pas un nuisible, y a rien de gênant, hormis, je vous dis, encore une fois, si ce n'est que si vous voyez des pucerons, c'est vraiment que là, il y a de l'élevage de pucerons qui peut se faire et qui peut altérer justement votre production de fraises, mais en soi, vous pouvez peut-être les gêner en venant les gêner pour les faire un peu partir. Ça peut être aussi en aspergeant éventuellement s'il n'y a pas trop de plants de fraisier, que ça peut se faire de cette manière. Ça peut aussi être une solution. Mais en soi, voilà, soyez conscient que la fourmi en elle-même n'est pas un parasite du jardin.
Non, et elle ne va pas me réduire les plants de fraisier.
Alors si vraiment vous voyez que la fourmilière elle monte, elle se développe, effectivement le fait de venir la gêner et un peu la détruire, j'aime pas trop ce mot parce que chacun doit trouver sa place dans le jardin, mais je vous dis essayez peut-être avec des arrosages un petit peu forts de venir un peu dispatcher pour faire en sorte que la fourmilière ne recouvre finalement pas votre plant de fraisier. C'est juste là un petit peu être dans l'observation et essayer de trouver le juste équilibre pour qu'elles puissent avoir leur place et vos fraisiers aussi.
D'accord. Très bien.
Voilà. Bon ben voilà Paul, vous avez réponse à votre question. C'est parfait ça Paul.
C'est parfait, très bien.
Merci Paul.
Merci Paul, bon dimanche à vous du côté de Montfort en Chalosse. Eh bien Aurélie, vous restez avec nous, hein, bien sûr, parce qu'on a plein de questions encore.
Je suis là, je ne bouge pas.
C'est parfait, c'est parfait. On va simplement écouter Johnny Hallyday, on revient juste après.
9h-10h, côté jardin, sur France Bleu.
N'hésitez pas à appeler au 05 58 46 50 50 si vous avez une question jardin. Aurélie, notre spécialiste, est là pour y répondre.
Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se
vivre pour le meilleur. Vous êtes sur les antennes de France Bleu Gascogne et de France Bleu Béarn. Bigorre pour Côté Jardin avec Aurélie Mazeris. Aurélie, l'heure est grave. Non, je déconne. On va pas aller comme ça. Mais nous sommes au mois de mai et le mois de mai, c'est quand même une période charnière pour les jardins. On est d'accord?
c'est effectivement la grande période qu'il ne faut finalement pas louper, parce que si on loupe un peu cette période d'activité vraiment un peu plus intense, ben effectivement sur l'été et sur l'automne on aura ou moins de légumes dans le potager, voire pas du tout si on les a pas mis en place, moins de fleurs si on n'a pas planté les fleurs ou si on s'en est pas bien occupé. Donc c'est vrai que le mois de mai c'est vraiment la période de grande activité. On l'attend finalement aussi parce que quand le printemps arrive, premier rayon de soleil, on se dit on aimerait bien planter, avoir un jardin fleuri, commencer à mettre un petit peu les légumes en terre. Et c'est vrai que là le mois d'avril il a été quand même assez frileux, il y a eu beaucoup d'eau, il a fait assez froid. Donc là on est dans la période finalement où on est en train de traverser les seins de glace. Donc les seins de glace, c'est tout le monde en a déjà entendu parler quand on jardine un petit peu. On sait que c'est cette période qui se situe finalement entre fin avril avec, on appelle ça les seins geleurs, hein, les brûleurs de bourgeons et les grêleurs. Donc il y a eu en plus des régions qui ont été finalement touchées par la grêle dernièrement, malheureusement. Mais c'est vrai que cette période de fin avril avec ses premiers seins, demain on a le Saint-Jean porte-latin qui est donc à la date du 6 mai, qui est le saint qui ferme la porte du froid. Donc on a une petite entrée maintenant dans le jardin, on va rester prudent avec les trois saints qui doivent arriver, ce sera les derniers saints, donc Saint-Mamet, Pancras et Gervais, respectivement, qui arriveront le 11, 12 et 13 mai prochain. Et donc à partir de cette période où les trois derniers saints de glace là sont passés, eh bien on va pouvoir vraiment commencer à planter dans le jardin en se disant que la terre est suffisamment réchauffée, qu'il y a moins de risques maintenant que les fleurs se développent, les fleurs comme les légumes se développent moins bien. C'est vrai que jusque-là, si on avait eu tendance à planter dans un sol un peu froid, les végétaux d'été notamment peuvent être un petit peu en souffrance. Donc là, c'est la période où on sait qu'on va pouvoir planter le week-end prochain. S'il fait beau, on va pouvoir vraiment s'affairer pour mettre en place les potagers, les massifs de plantes d'été. On va pouvoir aussi commencer à sortir éventuellement tranquillement les plantes d'intérieur qui peuvent passer l'été dehors. On va pouvoir commencer à les acclimater tranquillement là sur le mois de mai. Donc il y a des choses à faire, les occupations ne manquent pas, l'imagination non plus d'ailleurs, hein, si on a envie de se faire plaisir à recréer des nouveaux massifs. Il y a vraiment sur tous les côtés des jardins, des massifs, du potager, de la partie vergère également, il y a des occupations, donc c'est maintenant qu'on s'y a à faire. Et puis avec un petit peu de redoux cette semaine, on va vraiment pouvoir se faire plaisir.
Et alors justement, on parlait du redoux parce que ça fait grossièrement 3 semaines qu'on a un temps qui est un petit peu mitigé, avec des températures qui peuvent être parfois assez fraîches et même quelques gelées. Et là, le week-end prochain, on attend presque 30 degrés sur quelques portions du sud-ouest. Est-ce que ça peut être dangereux pour peut-être les plantations ?
Alors, dangereux, en fait, c'est vrai que là, du coup, tout est assez extrême. Il a neigé la semaine dernière pas loin de chez nous. Là, ils annoncent 30 degrés. Donc, dangereux, non. Après, c'est l'adaptation maintenant ces amplitudes thermiques qui font que pour les végétaux, ça peut être un petit peu compliqué, effectivement. Après, il y a toujours des procédés d'atténuer ces amplitudes. Je pense notamment à, si on fait du potager, essayer au maximum de pailler pour limiter les chauds froids au niveau du sol et des racines des plantes qui vont commencer à s'enraciner. On va essayer sur la tonte de la pelouse, on va éviter de tondre trop court parce que si derrière il y a une grande chaleur, les mauvaises herbes de la pelouse vont pouvoir plus facilement se développer. Donc il y a des petites astuces comme ça à mettre en place pour faire en sorte que tout se passe au mieux, on va dire le plus légèrement possible, ouais. En essayant d'être adapté à ce changement en fait, hein, qui se passe avec ces extrêmes qu'on connaît maintenant notamment sur le printemps. Hein.
Le tout, en fait, si je comprends bien, c'est d'isoler, de faire de l'isolation quelque part, mais on met pas de la laine de verre, évidemment, là-dessus, on n'est pas dans les toits des maisons. On met de la paille, on met tout ce qu'on peut isoler pour justement éviter ces amplitudes.
Oui, tout à fait. Les paillages aujourd'hui sont très utilisés, autant dans le verger que dans le potager, que dans les massifs. Déjà, ils empêchent l'herbe de pousser au milieu des plantes cultivées ou des plantes ornementales. Donc déjà, le paillage, il a cette propriété qui est quand même pas inintéressante pour moins se fatiguer. Et en plus, justement, il va venir couvrir le sol, essayer de garder un petit peu de chaleur, d'humidité, justement pour, s'il fait trop chaud, que justement, il y ait moins d'arrosage à faire. S'il fait un peu froid, que ça protège le sol de manière thermique. Les paillages, ils existent sous différentes formes. Il y a les paillages organiques, donc les tentes, la paille, la tente de la pelouse, la paille. Il y a des broyats de coco, de chambre, de ce type de plantes qui vont être plutôt des paillages organiques. Mais il existe aussi tout ce qui est toile tissée aujourd'hui, qui sont beaucoup utilisés en horticulture, sur la partie vergère, où on peut vraiment venir isoler un petit peu le sol de manière à ce que ça soit moins fatigant sur le jardin, sur la partie désherbage, etc.
Je comprends. On continue de discuter avec notre spécialiste Aurélie Mazéris au 05 58 46 50 50. La moindre question, Aurélie, j'en suis sûr, est capable de vous répondre. On va simplement écouter Raphaël, heure sup. J'imagine qu'il y a quelques-uns qui ont fait des heures sup dans les jardins ces derniers temps pour préparer l'avenir et les prochaines récoltes qu'il va y avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois. En attendant, Raphaël, heure sup.
Je fais des heures sup, les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup, d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup, d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Je fais des heures sup, d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup, d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Une ambulance passe, le sang à l'heure. Il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi. J'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup, d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup.
Vous êtes toujours dans Côté Jardin jusqu'à 10h sur France Bleu.
Jusqu'à 10h, Côté Jardin sur France Bleu.
Tous les week-ends sur France Bleu, Laurent Petit-Guillaume et sa bande ouvrent pour vous le Mag Loisir.
Vaste sujet, l'Europe, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quelle est son histoire? Autant de questions que l'on peut se poser avant d'aller voter le 9 juin prochain. Les réponses sont dans l'Europe expliquée aux jeunes et aux moins jeunes. C'est le nouvel ouvrage de François Hollande. Il est l'invité du Mag Loisir de ce dimanche.
Le Mag Loisir, chaque samedi et dimanche sur France Bleu, dès 13h.
France Bleu, partout en France, connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu Béarn Bigorre et France Bleu Gascogne.
Et dans Côté Jardin, on vous attend 05 58 46 50 50. On va parler d'un cyprès du côté de Cazerles sur la Dour juste après. Les Rolling Stones, Start Me Up.
Start me up.
Start Me Up, vous êtes dans Côté Jardin ce matin.
Le samedi et le dimanche à 9h, Côté Jardin sur France Bleu.
Toujours avec notre spécialiste du jardin Aurélie Mazéris, et on va aller du côté de Cazères-sur-l'Adour pour discuter avec Ingrid. Bonjour Ingrid.
Bonjour tous les deux.
Alors Ingrid, qu'est-ce qui vous arrive ?
Eh bien écoutez, il y a à peu près un an, on a acheté un cyprès, vous savez, découpé en nuages, là c'est si joli. Et il est bien planté, on a fait normalement tout ça. Et là, il prend, moi je vais vous dire, de la rouille, il devient brun, il perd ses épines ou je ne sais pas quoi. Et j'y comprends plus rien. Il a de l'engrais, il a de l'humidité, on lui a mis un Oya pour qu'il ait toujours de l'humidité. On vient de lui mettre des pierres de lave autour pour que tout soit bien. Mais on a de la terre, c'est de la glaise à Cazères. Donc, voilà, j'y perds un petit peu mon latin. Je ne comprends pas pourquoi cet arbre me fait ça.
Alors, Aurélie.
Oui. Alors, bonjour Ingrid. Vous me parlez donc de votre cyprès. C'est un cyprès de Leyland, du coup, ou un cyprès de Provence, vous savez, ou
non,
pas?
Non, un cyprès des Landes.
De Leyland.
De Leyland, oui, c'est ça.
Qu'on a acheté ici, qui vient d'ici. Je me refuse à mettre quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs et qu'on ne réussit pas toujours à faire pousser.
Oui, voilà. Tout à fait. Juste, c'est vrai que là, on a un cas de figure où c'est vraiment sur les cyprès de manière générale depuis plusieurs années, donc autant les cyprès de Provence que le cyprès de Leyland, ils sont atteints par une maladie qui est due à un champignon. Et alors, juste en fait, dans les premiers signes, c'est d'abord un petit jaunissement et un dessèchement des rameaux.
Ouais.
Plutôt vers la base. Alors là, vous me dites qu'il est taillé en nuage. En plus, du coup, il y a des tailles qui sont effectuées. Ça devient un petit peu rouge, ça brunit, ça se craquelle.
Oui.
On est un petit peu sur ce type de maladie. Alors, ce champignon, c'est Ridium cardinale, qui donne en fait la maladie du chancre cortical. En fait, le chancre cortical, c'est une maladie qui aujourd'hui, du coup, touche les cyprès, surtout quand il y a des habitudes de taille. Alors, je sais pas si finalement, vous m'avez dit que vous aviez mis une Oya au pied de votre arbre. Alors, l'Oya en soi, c'est très bien. Là, elle est déjà en place.
Oui, tout est.
Vous l'avez dit. Oui. Là, il y a déjà suffisamment d'humidité dans le sol. Surtout, vous dites, vous avez une terre argileuse, donc c'est une terre un peu lourde qui garde vraiment beaucoup l'eau. Je suis pas sûre que l'Oya sur le printemps ce soit nécessaire. Alors, c'est surtout qu'en fait, cette maladie, quand elle est là, c'est une maladie qui aujourd'hui n'a pas de remède en soi. Et c'est vrai que si, par contre, si on la détecte pas vite et si on fait pas en sorte de la limiter, elle va se développer et elle peut même toucher d'autres cyprès qui pourraient y avoir pas loin, parce que ça reste un champignon, donc ça reste des spores. Et du coup, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de traitement remède sur ce chancre. On peut essayer d'enlever tout ce qui... c'est même important d'enlever au fur et à mesure qu'on voit la maladie se développer, d'enlever tout ce qui est abîmé, ça c'est important. Mais quand on fait cette tâche, c'est important aussi de le faire très consciencieusement pour pas justement multiplier les spores. Les spores, après, ils peuvent rester des années dans le sol, du coup ils peuvent revenir si on replante le même type de végétal, là en l'occurrence la famille des cupressacées, hein, des cyprès ou tout ce qui est un peu résineux. Donc il peut y avoir des traitements préventif, mais là on n'est plus chez vous sur un stade préventif. S'il y a vraiment des zones qui sont vraiment attaquées, c'est l'oxychlorure de cuivre qui peut se trouver en jardinerie, qui est en fait une molécule de cuivre qui est un fongicide naturel. Donc vous pouvez tenter de passer ce produit pour limiter. Il faudra en amont essayer d'enlever au maximum de tout ce qui est en train de s'abîmer, dépérir, roussir en fait. Hein, voilà, au risque aussi de dénaturer un peu. C'est un cyprès boule, donc du coup j'imagine qu'il a une taille, que c'est assez joli. Et c'est vrai que quand on commence à agir pour enlever les parties abîmées, il peut changer aussi d'aspect. Mais là, à l'heure actuelle, le chancre du cyprès, il n'y a pas de remède, ni chimique, ni il n'y a pas de remède qui existe, si ce n'est l'arrachage. Hein.
Ah.
Donc je suis désolée, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors j'espère pour vous que ce n'est pas ce type de maladie, mais là, au vu de ce que vous me dites, et surtout que sur le cyprès, c'est vraiment la maladie connue. Donc là, c'est pour ça que même l'Oya, là, ce que je vous recommande, c'est même de l'enlever aussi, parce que finalement, la contamination au chancre, elle se fait d'avril à octobre, donc celle-là, ça se voit maintenant. C'est sur des périodes pluvieuses, avec du brouillard, de l'humidité, et ça favorise aussi la germination des spores, en fait.
Ah, bon. Eh ben, c'est pas bien tout ça ce matin, alors.
Ah, ben, on est désolé, Ingrid, on aurait voulu vous donner des bonnes nouvelles, mais là, c'est vrai que, parfois, faut dire les choses, hein, malheureusement.
Oui, je comprends très bien. Attendez, mon mari me demande quelque chose.
Allez-y.
Qu'est-ce qu'il faut pulvériser, qu'elle disait, Aurélie?
Alors, le produit que vous pouvez vous procurer normalement en jardinerie, c'est de l'oxychlorure de cuivre. Ça pourrait ressembler au sulfate de cuivre. En fait, généralement, on utilise ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre. L'oxychlorure, c'est la même, ça appartient au cuivre aussi, c'est juste une autre molécule qui peut agir. Et si vous ne trouvez pas l'oxychlorure, il y a aussi l'hydroxyde de cuivre, éventuellement.
Ok, il a noté tout ça.
Ça reste du préventif. Hein? Voilà, ça reste du préventif tout de même. Hein. Donc soyez vigilant si vous voyez que ça continue. Soyez vigilant à ce que justement, au bout d'un moment, ça atteigne tout le végétal, quoi. Donc oui, on enlève bien au fur et à mesure. On fait un traitement une fois que tout est bien enlevé. Hein, et on fait très attention parce que ce sont des spores.
D'accord. Je m'attendais pas à ça, mais c'est bon, comme ça au moins on sait à quoi s'en tenir.
Mais c'est pour ça qu'on est là sur France Bleu, c'est pour aussi vous apporter vraiment de l'expertise dans ce genre de situation un peu particulière. Donc
écoutez, on va essayer de s'amuser de nettoyer tout ça et de faire ce que vous nous avez dit de faire.
Eh ben voilà, on vous souhaite bon courage, Ingrid.
Merci Ingrid pour
tout ce travail. Merci et vous aussi, bonne journée.
Bonne journée, Ingrid. On continue dans Côté Jardin, 05 58 46 50 50 si vous avez des questions. Eh bien, c'est le moment tout de suite. Héloïse, hey bro!
Assis devant le mur en regardant les vagues et réfléchir à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? J'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un bois mer. Hey bro, staring at the sky and I see you go. J'aimerais
Héloïse sur France Bleu.
9h-10h, le samedi et le dimanche.
Côté Jardin.
Votre émission jardinage en format XXL.
On continue de vous écouter, de prendre vos questions pour essayer d'y répondre tout simplement. Et on va prendre la direction de Morsingue, la nouvelle, où Eric nous attend. Bonjour Eric.
Bonjour à tous les deux.
Quelle est votre question, Eric ?
Alors, ma question, j'ai acheté hier en jardinerie un rhododendron. Alors, son nom, c'est Graviella. Je ne sais pas si c'est important. Et il fait à peu près 50 cm de haut, 60 cm de haut. Et j'aurais voulu connaître les précautions à prendre pour le planter, savoir s'il vaut mieux le planter en pleine terre ou dans un grand pot, et quelle orientation, est-ce que sud, ouest, et vis-à-vis des autres arbustes, si je le plante en pleine terre, est-ce qu'il y a des choses à savoir ?
Eh ben dis donc, là, Aurélie, vous avez 4
oui.
heures.
Oui. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Le rhododendron.
Bonjour.
Alors la variété exacte que vous m'avez nommée, je connais pas exactement la variété que vous m'avez donnée, mais le rhododendron fait partie des arbres Graziella. Alors vous avez une idée, couleur de floraison, vous savez de quelle couleur il va fleurir ?
Ah ben il y a déjà quelques fleurs, hein, tout petites, hein,
d'accord.
Toutes petites fleurs qui commencent.
D'accord.
Dans les tons rose indien un peu.
Très bien. Donc, il fait partie le rhododendron, de manière générale, il fait partie des arbustes qu'il faut mettre dans son jardin si on aime avoir de belles floraisons. Et c'est vrai que ce genre d'arbuste est relativement facile à entretenir s'il est bien planté au bon endroit. Donc, je vais répondre à votre question, Eric. Effectivement, donc là, le rhododendron, alors, en termes d'exposition, si on doit commencer par là, c'est-à-dire, donc, j'imagine que vous avez un jardin avec un petit peu de place, parce que le rhododendron, il va... Bon, très bien. C'est pour ça que vous pouvez vous faire plaisir à vous offrir ce genre d'arbuste, et c'est une très bonne chose. Ils peuvent quand même monter jusqu'à 5 mètres. Hein. Ça peut être un arbuste qui va bien se développer. C'est pas un arbuste qui pousse excessivement vite, mais il peut se développer s'il est dans de bonnes conditions. On va plutôt essayer de le placer mi-ombre, voire ombre. C'est pas un arbuste qu'il faut laisser en plein milieu de la pelouse, en plein soleil, plein sud, parce qu'en fait, il pourrait souffrir de cette exposition et du coup altérer aussi sa floraison.
J'avais pensé à l'ouest.
Alors, à l'ouest, tout à fait. En fait, il faut vraiment lui trouver l'emplacement. Ça peut être à l'ouest, tout à fait. À partir du moment où il a un petit peu de soleil, mais pas trop. Et du coup, c'est ce qui va faire qu'il aura une belle floraison. Ce qu'il faut juste savoir aussi en termes de sol, c'est qu'il va vraiment préférer une terre et un sol, du coup, acide, vraiment à tendance terre de bruyère. Ça veut dire qu'au moment de la plantation, il faudra essayer d'amener de la terre de bruyère, si c'est pas le cas de... Enfin, j'imagine que votre pelouse n'est pas faite de fougères. Donc, il faudra essayer d'amener...
Oui, oui, la jardinerie me l'a conseillé, hein. Voilà.
Voilà, très bien. Donc, il sera un arbre comme un arbuste, surtout que vous avez de la place, sera toujours mieux en terre que dans un pot. En pot, ça reste quand même toujours plus difficile, c'est plus compliqué, il y a plus de maladies, plus de besoins, il faut être beaucoup plus attentif quand on cultive ce type d'arbuste en pot. Donc, en terre, il sera très bien. Là, c'est vraiment le dernier moment, par contre, pour le planter, parce que là, il est en pot, donc les arbustes... Voilà, les arbustes en conteneur ou en pot, ce qu'on dit en conteneur, c'est les pots. On va vraiment les planter maintenant, on n'attendra pas plus longtemps. Donc si vous le faites aujourd'hui, c'est très bien. Donc, zone ombragée ou partiellement ensoleillée. On fait un grand trou de plantation qu'on remplit également avec de la terre de bruyère. Si votre terre est un peu lourde, vous rajoutez un peu de drainant aussi. On fait juste attention au moment de la plantation que le collet, donc la partie entre la tige et les racines, cette jonction, soit bien... au niveau du sol et pas en dessous du sol, du niveau du sol.
D'accord.
Faut pas que le collet soit enterré, en fait, sinon ça peut lui faire l'abîmer et avoir un mauvais développement. Et ensuite, je pense que vous allez pouvoir profiter de cette magnifique floraison dans votre jardin.
Et vis-à-vis des autres arbustes, il vaut mieux l'éloigner de tous ou est-ce qu'il peut
supporter pas forcément
le voisinage?
Alors, il supportera d'avoir des voisins un peu de sa même classe, j'ai envie de dire, donc plutôt type terre de bruyère, hein, les azalées, rhododendrons, ils vont bien ensemble, les hortensias également.
D'accord.
En fait, il faut juste avoir la considération que si plus tard il doit faire 5 mètres, il faudra pas qu'il soit en concurrence. C'est-à-dire, on le plante pas trop près d'autres arbres. Arbre, arbuste, il faut quand même laisser des espacements en projetant les 5. Oui, tout à fait. Oui, et d'autant plus qu'il sublimera par sa floraison en étant seul aussi.
D'accord. Mais écoutez, c'est formidable. Merci pour les réponses.
Eh ben voilà.
Merci Eric.
Eh ben impeccable.
Génial Eric, du côté de Morsinx qui a toutes ses réponses. Si vous voulez aussi avoir les réponses à vos questions, eh bien c'est un seul numéro, 05 58 46 50 50. Il reste encore un petit peu de temps avant 10h pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, pas forcément moi, mais surtout Aurélie, puisque c'est elle, notre spécialiste jardin. Aurélie, vous êtes toujours en ligne et vous restez bien avec nous jusqu'à 10h, on est d'accord hein?
Tout à fait, je suis là jusqu'à 10h.
C'est parfait, restez bien avec nous, 05 58 46 50 50. Tout de suite, Claude Barzotti, madame.
Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude? Vous serez mon premier été, ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer. Imaginez un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Et peut-être en mourir. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, je vous prendrai la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame.
Claude Barzotti, madame. Il est 9h48 et vous êtes sur France Bleu Gascogne. On est toujours dans l'émission Côté Jardin et on va aller voir du côté de Gestas où Christophe nous attend pour la taille d'un arbre. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Thibault et bonjour Aurélie.
Alors Christophe, quelle est votre question?
Alors je... comment dire, c'est pour une amie qui est sur Pontonx qui a un arbre de Judée et apparemment elle ne doit pas savoir quand le tailler. Comment dire, parce qu'il ne lui fleurit jamais. Donc, ma question à Aurélie, quelle est la période optimale pour tailler un arbre de Judée si on doit le tailler?
Oui, bonjour Christophe.
Bonjour Aurélie.
Alors, l'arbre de Judée, vous avez donné un petit indice, vous dites il ne fleurit jamais. Alors, c'est peut-être que des fois, on est un peu impatient quand on plante. Alors, l'arbre de Judée, généralement, quand on le plante, c'est pour sa floraison remarquable. C'est-à-dire qu'il va avoir une floraison qui intervient avant la sortie des feuilles, vraiment sur le bois. Alors, il y a des floraisons blanches, roses, et c'est souvent des très belles floraisons sur le bois. C'est assez fin, c'est très joli, et on le choisit pour ça. Donc, il fleurit au printemps. Et généralement, voilà, quand on le plante, des fois on est un peu impatient, des fois on a un peu envie de d'être dans le contrôle de la taille, de la forme qu'on voudrait qu'il ait. Et si il a déjà été taillé, et notamment en automne, ben oui. En fait, quand on taille à l'automne, on annule la floraison. Parce qu'il va fleurir, ouais, il va. En fait, c'est pour ça que je. Là, vous avez quand même donné l'indice. Si on le taille à l'automne, comme les fleurs apparaissent sur le bois de l'année précédente, mais le fait de le tailler à l'automne, on annule la floraison de l'année d'après, en fait. D'accord. Donc, ce qui. L'arbre de Judée, de manière générale, c'est un arbre qui est très facile d'entretien. Et il offre l'avantage de résister au froid, au gel, à du moins 15 degrés. C'est extrêmement rustique. Il prend une très jolie forme naturellement quand on le laisse pousser sans le tailler. Il est donc possible, en fait, de limiter, en fait, sa croissance ou de le tailler si vraiment il peut gêner, on a envie un peu de le remodeler. Mais c'est pas indispensable, la taille. Vraiment, vaut mieux le laisser de manière très spontanée se développer. Et si on doit tailler, si on a vraiment envie de tailler pour remodeler ou rééquilibrer la silhouette, ça se fera juste après la floraison. Donc là, il vient de finir de fleurir ou il est en train de finir de fleurir. Donc ça sera juste après la floraison. Et je suggérerais, là encore, des tailles très douces. L'arbre de Judée, c'est le type de sujet qui peut vivre 100 ans, en fait, s'il est dans de bonnes conditions. Donc, c'est vrai que chaque taille, on induit des blessures, on agit dessus, on crée du stress. Donc, ce que j'ai envie de dire pour là, votre amie, c'est elle peut le laisser un petit peu vivre pendant les 2-3 prochaines années. Et comme ça, elle reprofitera des floraisons au maximum de printemps si elle arrête de le tailler à l'automne. Et finalement, elle verra que ce port un peu, ça fait des très jolis ports. Hein. Généralement, ils sont pas forcément en tige, hein. Ils sont un peu, ils s'ouvrent beaucoup. Et finalement, sans tailler, on a plus de floraisons aussi. Donc voilà, un petit peu de patience. Pour cette année, s'il a pas fleuri, c'est pas grave, mais il fleurira le printemps prochain si elle n'y touche pas cet automne.
Généraliser de la taille de, comme vous dites, il faut tailler juste après la floraison. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur les autres arbustes également?
Toutes les floraisons printanières, oui, finalement, en fait, vaut mieux. Enfin, une grande partie, après, il y a des milliers de végétaux qui existent, et donc on ne peut pas aller faire du cas par cas, mais c'est des grandes règles de taille, effectivement, c'est que floraison printanière, vaut mieux tailler après la floraison, comme ça, on voit où ça a fleuri, et on vaut mieux éviter, justement, les floraisons printanières, de les tailler à l'automne, parce qu'on est sûr qu'au printemps d'après, on aura tout taillé, donc il n'y aura pas de fleurs. Donc après, ça dépend, en fait, des végétaux, quand on dit, on généralise pas dans le sens où il y a des ornementaux, il y a des fruitiers. Il y a des objectifs très différents pour chacun. Sur certains, on voudrait des fleurs, sur d'autres, on voudrait des fruits. C'est pour ça qu'après, on voit au cas par cas. Mais il y a des grandes règles qui... Après, dans les grandes règles aussi que j'aime bien, c'est de pouvoir aussi laisser un peu plus de liberté en faisant des tailles plus douces et éviter justement d'agir trop souvent à vouloir tailler, maintenir. Alors que les arbres qui vont être peut-être un peu plus laissés tranquilles, un peu plus libres, ils auront aussi moins de maladies, ils seront dans de meilleures conditions. Il faut pas oublier qu'à chaque taille, on fait une blessure. On crée une porte ouverte pour des champignons, des parasites, donc des futures maladies. Donc c'est un peu une approche qu'il faut aussi peut-être se dire que sur certains, notamment ceux qui font des fleurs, juste les laisser faire leurs fleurs.
D'accord, c'est parfait tout ça.
Voilà. Eh bien Christophe, comme ça vous avez la réponse à votre question, même à vos questions.
Eh bien oui, je vous remercie.
Eh ben avec plaisir, c'est le rôle qu'on se donne. Hein,
merci comme, Christophe.
Comme chaque samedi, comme chaque dimanche du côté de Côté Jardin. Bonne journée à vous Christophe.
Oui, bon dimanche à vous.
Bon dimanche à vous Christophe. Eh bien Aurélie, nous on va se retrouver la semaine prochaine.
Dimanche prochain, dimanche avec grand prochain, plaisir, pour exactement. Le week-end des scènes de glace.
Eh ben oui, important, on en a d'ailleurs parlé au début de l'émission, un moment crucial pour la suite de la saison. Aurélie, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche.
Merci et bon dimanche à vous tous également.
Bon dimanche. Et eh bien, Côté Jardin reviendra la semaine prochaine, comme d'habitude, le samedi et le dimanche, sur les antennes de France Bleu.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Articulé, je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé.
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Oui, mais...
Jacqueline, découvrez le plus grand choix de pergola pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Catoise ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.